Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous. Et oui, Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, c'est vous dire si elle est utile par les temps qui courent. Réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Avec nous aujourd'hui, pour la sixième de cette saison, Édouard Le Cerf, directeur adjoint de l'Institut BVA et donc grand spécialiste de l'opinion publique, et Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, ex-député UMP et grand spécialiste de la palangre de bois. Et on commence avec Canteloup.
Allez, on va avoir une autre version des faits, celle d'Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour.
Alors pourquoi avoir refusé cette démission dans un premier temps ?
Écoutez, pourquoi avoir refusé ? Parce que sans Gérard Collomb, le premier flic de France, soyons réalistes, vous, moi, les Français, Monsieur Bicker, Monsieur Apathy, Monsieur Cabrol, vous, Mademoiselle Dacosta, vous seriez en danger ? Gérard nous protégeait, il nous gardait. J'ai même envie de dire qu'il nous bodyguardait. Mais non, mais je déconne.
Oh, oh d'accord.
Elle m'a cru, elle est mignonne.
Bah oui, on a cru.
Maigret, c'est Jason Bourne à côté de Collomb.
Alors, un mot de l'actualité brûlante, l'arrestation de Redouane Faïd ce matin.
Oui, donc vous voyez, à peine Gérard est parti, ça va déjà mieux. En tout cas, j'irai voir Redouane Faïd, je lui dirai les yeux dans les yeux. Vous savez ce que je lui dirai les yeux dans
Quoi
les yeux ? Je lui dirai, Redouane, tu arrêtes tes bêtises maintenant. Ta maman mérite mieux que ça.
Ben voilà.
Regarde, tu es costaud comme tout. Allez, file, sacripant. Mais non, je vais lui dire, je vais éviter de lui dire file. C'est ce qu'il fait en permanence.
Allez, merci Monsieur Macron. Bonne journée.
Merci.
Eh bien, on va avoir la vraie version de cette rupture puisqu'on a un enregistrement exclusif de leur échange hier. Collomb, Macron, écoutez.
Oui, Emmanuel, c'est moi. Je démissionne. Non, n'insiste pas. J'ai décidé de quitter ton gouvernement. Donc, je te le dis sans amertume. Adieu, Emmanuel. Je veux mon indépendance.
Mais qu'est-ce que tu me fais, Gérard ? Rappelle-moi ton âge.
71 ans et demi.
Est-ce que tu ne crois pas que 71 ans, et je te fais grâce du demi, c'est un peu tard pour une crise d'ado, non ?
Oui, très, très drôle. Non, écoute, franchement, tu ne m'as pas regardé toutes ces années. Maintenant, tu t'aperçois que je n'étais pas totalement acquis. Eh bien, je reprends ma liberté dans un endroit où je me sens désiré, où on a envie de mon corps, à Lyon.
Gérard, il suffit. Tu reviens immédiatement.
Non. Non, Emmanuel, tu m'as perdu. Tu n'as pas regardé avec les yeux de la Quand moi je n'ai pas cessé de te regarder avec les yeux de la passion, je monte dans ma voiture, tant pis, je pars, direction Lyon.
Gérard, tu reviens. Et puis on ne s'achète pas une Ferrari à ton âge. Hein, on enlève cette chemise à fleurs, tu es ridicule.
À moi la grande vie. Merde, je crois que j'ai calé.
Il faut que Canteloup en rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'on voit que c'est une caricature, parce que sinon ce serait très, très proche de la réalité. Le j'ai redémissionné. Henri Guénaud, vous avez été surpris que notre vie politique et gouvernementale atteigne de tels sommets dans la pitrerie ?
Oui. Enfin, oui, c'est sans précédent. Enfin, je pensais que cela se déréglerait au fur et à mesure du quinquennat pour un tas de raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Mais à cette vitesse et jusqu'à ce point, non.
Alors après, il y a une question d'évaluation. Moi, je suis très surpris de... Comment ne pas minimiser le sérieux de ce qui se passe, l'atteinte que ça porte à l'autorité du président de la République, la dégradation supplémentaire dont ça affecte la politique? Comment donc ne pas le sous-estimer? Mais ne pas employer des termes aussi inexacts, repris partout, y compris par le très sérieux journal Le Monde, de crise politique. Parce que nous ne sommes pas dans une crise politique, Édouard Le Cerf.
On n'est pas dans une crise politique dans la mesure où ça n'est pas ce simple événement, mais on est dans une crise politique, on peut considérer qu'elle a été plus ancienne. Ça n'est qu'un épiphénomène de quelque chose qui s'est installé. En ce sens-là, vous savez, vous vous souvenez de Jean-Luc Parodi qui parlait des actes lourds en politique, il y a des éléments qui sont très structurants. Et ce qui vient de se passer est quelque chose qui réactive des choses qui étaient déjà très présentes. Nicolas Canteloup disait quelque chose de très intéressant et qui dit beaucoup de choses dans la toute première question, c'est-à-dire pourquoi avoir refusé le départ ? Pourquoi d'ailleurs ne pas l'avoir provoqué ? C'est ça un peu la question. C'est ça qui amène l'enchaînement un peu étonnant de de nouveau je démissionne, et le président de la République qui se trouve confronté au fait de ne pas pouvoir l'arrêter. Mais pourquoi dès le départ a-t-il tenté d'arrêter les choses? C'est un positionnement et qui se retourne contre lui d'une certaine manière.
Alors, Guénaud, vous avez une explication, vous, dans le fond vous connaissez les présidents de la République mieux que moi. Vous avez une explication sur, comme, je vais essayer de donner du sens à ma question. Pour quelqu'un comme vous qui a vécu 5 ans à l'Élysée, si je ne m'abuse, est-ce que de ce que vous en avez déduit, de ce que ça produit chez les présidents qui sont pour part enfermés, il y aurait un élément d'explication de l'incompréhension par le président, en l'espèce Macron, de la situation politique?
Alors, bon, je crois qu'aucun président n'a ressemblé en réalité à un autre président. C'est chacun a vécu avec son propre caractère, sa propre psychologie, l'arrivée, et puis ce que vous appelez l'enfermement, mais surtout la lourdeur de cette charge, hein, qui est à la fois très lourde politiquement et très lourde symboliquement. Chacun a vécu ça de façon, il a réagi de façon très différente à cela. Vous comparez un Pompidou à un François Hollande, vous avez la distance de la terre à la lune. Je crois d'abord que aujourd'hui on a une crise, non pas une crise politique au sens habituel du terme, mais une crise de la politique, mais celle-là elle est pas propre à la France, elle est propre à tout l'Occident, Il y a d'autres raisons. Et puis on a une sorte une situation très personnelle, hein, qui tient au caractère, à la personnalité d'Emmanuel Macron, et qui réagit non pas en appliquant comme on le pense souvent, des stratégies de communication ou des stratégies politiques, mais qui réagit en fonction de ce qu'il est, voilà, de sa personnalité.
Écoutons-le justement, Emmanuel Macron.
Il y a un cap des institutions, un gouvernement au travail, et le service du pays et du peuple français, c'est ça qui compte. Le reste, ce sont des péripéties.
Il ne s'agit pas d'une crise politique.
Non, mais je ne fais pas d'autres commentaires. Vous savez, moi, je ne suis jamais dans le commentaire. Je suis dans l'action. C'est ça qui m'intéresse et ce que les Français attendent.
Sur ce point précis, ne pas être dans le commentaire, là, il a raison ou il a tort?
Il a raison, sauf qu'après, il ne cesse de faire des commentaires.
Voilà,
c'est vraiment, on est...
Il aurait raison s'il appliquait les propos qu'il tient à raison.
Oui, parce que la première partie de la phrase est parfaitement acceptable, même normale pour un président de la Ve République. Mmh. Et puis après, il ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires, de répondre à l'emporte-pièce aux gens qui l'interpellent. Et c'est pas une stratégie de communication, c'est pas... Il n'est pas vrai qu'il maîtrise chacun de ses mots dès qu'une caméra est là. Non, il laisse parler, son intime conviction. Et
trop,
c'est là.
Parfois,
c'est justement
too much,
là que le problème il est là, c'est que un président de la République française sous la Ve République est, qu'on le veuille ou non, une sorte de monarque républicain. Et un monarque, ça n'a que des devoirs et aucun droit. Et certains psychologiquement pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Et c'est là que les choses commencent à dérailler.
Ah, certain. Donc c'était Emmanuel au pluriel, on ne demandera pas quels étaient les autres pour ne pas bouger les... Édouard Le Serf.
Non, Emmanuel Macron oublie quelque chose. Lorsqu'il
Sarkozy, donc.
Non, c'est pas pareil.
Ah bon, d'accord. Édouard Le Serf.
Lorsqu'il explique... On reviendra, si vous voulez, la comparaison.
Ouais. Lorsqu'Emmanuel Macron explique, il dit, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'action, c'est ce que les Français attendent. Les Français attendent de l'action. Certes, mais il oublie tout un pan, qui est aujourd'hui ce qui pèse notamment sur la façon dont les Français perçoivent l'action. C'est l'action et ses résultats. Lorsqu'il dit, effectivement, je ne suis pas dans le commentaire, je suis dans l'action, les Français attendent de l'action, aujourd'hui ça ne suffit plus.
Ah, c'est sûr que quand les résultats sont pas là et que la manière n'y est plus, ça pose problème. On approfondit ça dans quelques instants.
Mediapolis, c'est jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et vos deux invités, Édouard Le Serf, directeur général de l'Institut BVA, et Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.
Et aussi Gérard Larcher, parce que nos invités ici à Mediapolis, ce sont ceux qui nous font la gentillesse d'être en plateau, mais ceux aussi qui, sans qu'on leur demande leur avis, nous fournissent de précieux sons.
Il y a une crise politique au sens moral, c'est-à-dire qu'il y a un vrai doute sur l'autorité du chef de l'État et du Premier ministre. C'est sans doute un doute sur la manière de gouverner, cette manière un peu verticale. Ce pouvoir s'est coupé des corps intermédiaires. Je dois dire que je trouve ça assez étonnant, et je crois qu'il est bon de rappeler, assister à cette démission refusée, puis imposée par un ministre, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, un mois après qu'un ministre d'État et déclaré devant les micros de France Inter qu'ils s'en allaient sans même avoir prévenu le président de la République. Je crois qu'il faut, puisqu'on fête un anniversaire de la Ve République, retrouver nos repères.
Retrouver nos repères, on peut qu'être d'accord avec Gérard Larcher, le président du Sénat, sur France Info, le 3 octobre. Un pouvoir politique qui s'est coupé des corps intermédiaires, c'est assez largement vrai. Le spectacle d'une démission reprise, reformulée, on est toujours d'accord. Mais peut-être trouver le sens des mots aussi. Alors, Édouard Le Cerf, pendant la pause, me disait... mais pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'y a pas... Enfin, pourquoi est-ce que tu dis, parce que quand il y a la pause, on se tutoie. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il n'y a pas crise politique? Et je lui dis, parce que une crise politique, c'est quand il y a chute du gouvernement renversé, ou un Premier ministre renvoyé, ou un blocage total des institutions, et il n'y a rien de tel. Et alors, quand Gérard Larcher dit une crise politique au sens moral, alors là, je comprends plus rien, parce que je ne sais même pas ce que ça peut vouloir dire, une crise politique au sens moral, ou une crise morale au sens politique. D'ailleurs, l'un ou l'autre, je ne comprends pas. Donc, Édouard Le Cerf, puisque vous assumez l'expression de crise politique, déjà, expliquez-moi ce que ça veut dire, une crise politique au sens moral. Là, vous allez avoir du mal.
J'ai combien de temps ? Non, moi, je pense que c'est... Je parle avec malgré tout d'un moment de crise, mais encore une crise... Vous savez que dans les maladies, il y a des crises.
C'est-à-dire non, que c'est on abuse de ce mot, on l'emploie à tout propos, il ne veut plus rien dire. Quand il y a des vraies crises, c'est quoi? Alors, c'est des hyper-crises.
Reconnaissez quand même qu'à travers ce qui se passe, à travers ce que dit Gérard Collomb, il dit plein de choses. Ah oui,
ah, Collomb. Non, très bien, Collomb.
Parce que Larcher commande Collomb, donc je vais commenter Larcher commande Collomb. Il dit, un, vous n'êtes pas Jupiter, vous n'êtes pas tout-puissant, dit-il au président de la République. Je ne suis pas votre obligé, souvenez-vous, c'était des mots qu'avait utilisé Macron à un moment. On peut vivre en dehors de vous. Première chose, pour un président de la République, c'est pas facile. Deuxième chose, il lui dit, il faut que je sorte de cette bulle dans laquelle vous êtes en train de vous enfermer et pourquoi pas de m'enfermer. Donc je suis en train d'essayer de trouver quelque chose, sortir de l'isolement dans lequel vous vous mettez et moi, j'en sors. Il dit une troisième chose, il dit, il faut peut-être s'éloigner à temps pour ne pas subir une avanie électorale.
Il n'a pas dit ça, là. Vous inventez la citation. Là. Il n'a pas dit qu'il faut le sortir à temps pour éviter une avanie électorale.
Lorsque je dis,
impossible qu'il ait dit une chose aussi sincère.
Mais bien sûr, il dit des choses, il exprime ces choses-là. C'est pour ça que je parle de cette crise révélatrice de plein de choses qui sont présentes auparavant. Et effectivement, ce simple départ, on peut l'analyser à travers tous ces éléments et donne le sentiment que c'est une crise. Mais comme on peut avoir une crise de goutte en ayant la maladie présente de manière plus...
Bon, donc, allez, on va pas passer toute l'émission sur le décortiquage des sens possibles du mot crise. Vous êtes convaincu que vous avez raison, moi que j'ai raison, et Henri Guénaud est d'accord avec moi, donc c'est déjà pas mal. Sur le fond, je vais vous poser une question dont je reconnais qu'elle est stupide, parce que quand on me la pose, ça m'exaspère au dernier degré. Mais il y a trop de gens, trop d'auditeurs, moi, quand ils me parlent, qui me la posent pour que je vous la pose pas. C'est récupérable ou c'est cuit pour Macron?
Je pense que c'est vraiment une intuition très personnelle, et pour avoir vécu dans des situations non pas similaires mais qui avaient quand même quelques similitudes lointaines avec celle-ci.
Au moins dans la difficulté, on va dire.
Voilà, dans la difficulté et dans le fait que la psychologie prend le pas sur le reste, la psychologie collective. On y est. Indépendamment, on peut penser ce qu'on veut de sa politique. D'accord. Ce matin, faire l'analyse de la réforme des retraites, de la CSG, etc. On néglige la dimension psychologique et symbolique. Et on est aujourd'hui dans cette dimension. Je pense qu'il est en train de se développer une espèce de phobie. C'est anti Macron. Voilà, elle est probablement irréversible, d'autant plus que il remet une pièce dans la machine, si j'ose dire, tous les jours. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gouverner un pays, même si vous avez raison, même si vous avez une forte envie de le dire, en disant un jour, vous êtes arrêtez de vous plaindre, vous plaignez trop, il suffit de traverser la rue, il y a ceux qui ne sont rien, les feignants, les réfractaires, etc. Il y a cette espèce de... Alors, on peut se dire, c'est beau, c'est très spontané, mais le souverain, le monarque républicain, il n'a pas à être spontané, il ne peut pas avoir cette relation avec les gens, et c'est comme un puzzle. Moi, je l'ai vécu au moment de la présidence Sarkozy, encore une fois à un degré beaucoup moindre et pour des raisons différentes, mais c'est comme un puzzle et tous les jours on rajoute une pièce au puzzle. Je ne sais pas comment ce mouvement psychologique s'inverse. Voilà.
Henri Guénaud vient de nous dire il est en train de se développer une phobie anti-Macron, probablement irréversible. Alors, j'imagine que vous êtes très nombreux à tweeter. Moi, je le note sur mon carnet. C'est assez rare que...
C'est une intuition, c'est une analyse. C'est pas du tout un souhait, ni un... voilà, oui, c'est purement factuel.
Purement intuitif.
Oui, intuitif, oui. Et sur les faits.
Factuel sur la phobie et intuitif sur l'irréversible, on peut dire ça ?
Oui, on peut dire ça. Je ne sais pas comment on arrête, moi, une phobie qui est en train de se développer de cette façon.
Peut-on arrêter une phobie qui se développe de cette façon ? Peut-on ? Édouard Le Cerf, spécialiste de l'opinion des Français, peut-on ? Vous nous répondez dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1. Et aujourd'hui, Olivier, vous recevez Édouard Le Cerf, directeur général de l'Institut BVA, et Henri Guénaud, ancien conseiller Nicolas Sarkozy.
Absolument, des gens qui disent ce qu'ils pensent. Est-ce que Nicole Belloubet dit ce qu'elle pense lorsqu'à la question que j'ai posée, est-ce grave, est-ce irrémédiable ? Elle répond, enfin implicitement, elle répond pas tout à fait, tout va très bien madame la marquise, mais n'exagérez pas en parlant de crise. C'était juste pour la rime, on l'écoute.
Les hommes passent, l'action du gouvernement demeure. Et je crois que c'est vrai, c'est très intemporel, en tout cas dans notre République, dans notre démocratie, c'est ainsi que les choses doivent se passer. Il y a un État, il y a des pouvoirs publics, ils fonctionnent au-delà des hommes qui les exercent, et c'est très important. Je n'ai pas dit que tout allait bien, je dis simplement qu'il ne faut pas faire de cet événement, qui est un événement complexe à gérer sur le plan politique, parce qu'il est inédit, il ne faut pas non plus en faire une crise grave. Je crois qu'il faut savoir replacer les choses à leur juste valeur. Nous sommes un État qui fonctionne, les pouvoirs publics sont au travail.
Donc c'était sur Europe 1 le 3 octobre, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bon, alors on a dit qu'on ne reprenait pas la discussion sur le bien fondé ou pas de l'expression crise, parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que nous sommes dans un moment important du quinquennat, dans un moment dans lequel le président de la République sombre dans une impopularité croissante, et dans un moment dans lequel la succession des événements de l'été met en cause, et particulièrement ceux de cette semaine, son autorité. Là-dessus, Henri Guénaud, qui a l'habitude de dire ce qu'il pense, c'est sa qualité, qui lui a coûté cher en politique d'ailleurs, nous a dit qu'il... comme une intuition qu'il avait, comme qu'il constatait qu'une phobie anti-Macron était en train de se développer et qu'il se demandait s'il pensait plutôt qu'elle était irréversible. Et Édouard Le Cerf devrait nous dire irréversible, peut-être pas. Mais je préjuge.
Oui, non, vous préjugez assez bien. Peut-être pas parce que d'abord, la phobie, il faut la limiter à un certain nombre de personnes. Alors c'est vrai que sans utiliser les termes de la psychologie, la phobie, ce que l'on constate, c'est une forme d'intensité. Lorsqu'on regarde les 30% de popularité de bonnes opinions qui demeurent et les deux tiers de mauvaises opinions. Il y a une chose qui est intéressante aujourd'hui, lorsqu'on va regarder dans le détail, il y a 7 fois plus de Français qui ont une très mauvaise opinion d'Emmanuel Macron que de Français qui ont une très bonne opinion. Donc je parlerai peut-être pas de phobie, mais en tout cas d'intensité. Deuxième élément, malgré tout, pour aller... La phobie, elle est quand même limitée, elle est de plus en plus. On va dire, si on doit utiliser le mot phobie, elle concerne un certain nombre de personnes. Mais il demeure, pour Emmanuel Macron, une sorte de flotteur d'opinion qui est sa force, qui est qu'aujourd'hui, les sympathisants de la République En Marche, qui demeurent relativement nombreux, sont très largement derrière lui.
Relativement nombreux, ça veut dire quel pourcentage à peu près de vos échantillons ?
On a à peu près 20% des personnes 20%, qui se disent effectivement 20%. À proximité, peut-être un peu moins, ça a un peu tendance à diminuer. Mais en tout cas, ceux-là sont très largement derrière Emmanuel Macron.
Mais enfin, d'accord, enfin, mais qu'il ait 80% de 20%, excusez-moi, mais si c'est pas avec ça qu'il arrivera au port. Hein.
Non, mais les 30% non plus ne révèlent pas ce que j'allais dire une phobie. La phobie, ça veut dire quelque chose, ça, c'est le tout sauf. Comme il y a eu un tout sauf Sarkozy, un tout sauf Hollande, un tout...
Henri Guénaud.
Justement, je pense que l'impopularité n'est pas la phobie. Mais ce qui se passe aujourd'hui, à mes yeux, c'est vraiment le changement de nature de cette impopularité qui est arrivée à Sarkozy pour d'autres raisons, qui est arrivée à François Hollande et qui arrive, à mon avis, beaucoup plus vite et avec une plus grande intensité avec Emmanuel Macron. Voilà, c'est vraiment c'est mon sentiment, c'est... que je sens en discutant avec les gens. Alors c'est pas des échantillons représentatifs,
mais moi je trouve, voilà. J'aime ça, excusez-moi, je vous dis, on nous passe 90-95% des outils utilisée par les commentateurs et par beaucoup des journalistes pour apprécier la situation politique, c'est sondage, 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 sondage. Mais il faut aussi laisser la place à ce qu'on sent sur le terrain, à ce qu'on entend autour de soi, au retour, entre guillemets, qualitatif dans le jargon du métier. Et donc, ce que vous dites vaut bien un sondage, et surtout quand c'est 15 sondages sur le même sujet.
Rappelez une expérience quand même, enfin, historique, hein, c'est que quand Édouard Balladur était au plus haut dans les sondages, moi et beaucoup de gens d'ailleurs, nous rencontrions presque personne, sauf dans certains milieux très identifiés, de baladurien pur et dur. Quoi. Il y avait une distorsion entre ce que nous disaient les sondages, on l'a vu d'ailleurs par la suite, hein, avant les élections. Hein, je parle pas des sondages pendant.
J'ajouterais même que le TSB, le Tout Sauf Balladur, on l'a senti pour les gens qui interrogeaient, oui, qui suivaient, qui avaient des antennes, avant que ça se traduise en
non, non, absolument. Avant, c'est ça le. Et même avant le début de la vraie campagne, là où tout le monde s'explique et où les gens se forment une opinion définitive sur leur vote. Deuxièmement, avec 20%, on peut peut-être arithmétiquement gagner des élections.
Hein, passer un premier tour d'élection présidentielle. Voilà.
Mais, il suffit que les autres soient pires, quand même. Voilà. Il y a toujours cette chance.
À partir de 20%, c'est jouable, le premier tour de l'élection présidentielle, si on regarde l'histoire. Mais, en revanche, gouverner avec seulement 20%, c'est plus difficile. On a vu, quand les gens ne veulent plus, ils ne veulent plus. On a vu en 95, Chirac était élu, il avait la majorité, il a dû reculer. On l'a vu sur le CPE, on l'a vu avec Mitterrand, qui a parfaitement compris que ça allait dans le mur, avec l'école libre, on l'a vu. Il y a des moments où le pays, en tout cas dans une forte proportion, ne veut pas. Et quand le pays ne veut plus, eh bien il devient extrêmement difficile de gouverner, même si vous avez l'arithmétique électorale pour vous.
Je pense qu'on peut continuer à gouverner, mais je pense qu'il devient impossible de convaincre. Et est-ce qu'on peut gouverner sans convaincre?
En 1996, on ne pouvait pas gouverner, par exemple. C'est en 1996. 95, on est élu, il y a les grandes crises. L'année 96 a été horrible pour ceux qui ont vécu dans l'appareil gouvernemental. Absolument épouvantable. Et une partie de la dissolution est justifiée par ça. Pas seulement par le fait qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient gagner les élections, mais parce que l'année 96 a été une année où le pays était devenu ingouvernable. Chaque initiative du gouvernement butait sur un refus têtu de la part de la catégorie ou des catégories qui étaient concernées, à un point qu'il était difficile de l'imposer.
Cela dit, on n'en est pas là, d'une part. Et d'autre part, parfois il arrive que des gens aient l'air de gouverner mal, mais pourtant que ça se passe bien. C'est quoi des gens qui ont l'air de gouverner mal et que pourtant ça se passe bien? Suspense, réponse dans quelques instants.
Édouard Le Serre, directeur général de l'Institut BVA, et Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, sont les invités d'Olivier Duhamel ce matin dans Mediapolis.
Merci Justine, moi j'adore Mediapolis quand il y a des invités comme Henri Guénaud et Édouard Le Serre qui nous décortiquent non seulement l'actualité de la semaine, mais qui après remontent dans l'histoire ou font de la prospective. Je trouve que dans ces cas-là, c'est vraiment formidable. Merci messieurs. On quitte la France un instant. On quitte la France parce que Paul Lassen, qui prépare cette émission et qui regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous a signalé quelque chose d'assez intéressant. On quitte la France, mais on quitte pas le thème gouverner. Et il y a un site internet, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle TTSO.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Time to sign off.
Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Et ben moi, j'étais Henri Guénaud jusqu'à il y a 48 heures et je suis devenu Édouard Le Serre depuis. C'est un site de sélection assez intéressante d'informations sur Internet. Et là, ils ont noté que les derniers résultats du sondage aux États-Unis ont été publiés, donc c'était hier, 3,7%. En septembre, contre 3,9 en août, le taux le plus faible depuis 1969. Même contestable sous emploi inactif mal décompté, ça a toujours été le cas, les chiffres continuent à montrer l'incroyable forme du marché du travail. Et les salaires commencent à augmenter fortement. Plus 2,9 en août, un score pas vu depuis 9 ans. Et conclusion de l'excellent Corentin Céline, dit le site TTSO, spécialiste des États-Unis souligne, le dernier président américain à avoir eu un chômage aussi faible tout en étant haï par la moitié des Américains, c'était Nixon. Il fut réélu en 1972, arrivant en tête dans 49 États sur 50. Donc, quelque part, on pourrait soutenir la thèse, mais on s'en fiche de toute cette écume médiatico-politique sur la mauvaise manière de faire, les abus de Jupiter, l'absence de sympathie avec les Français, les provocations permanentes, les saillies inutiles. La seule chose qui compte, c'est to deliver, c'est les résultats, les résultats, les résultats. Et que si les résultats arrivent, eh bien, quelles que soient les phobies, et ce sera bon pour lui, Édouard Le Serre.
Vous avez tout dit.
Henri Hénaud. Non, je crois. Enfin,
La phobie. Donald Trump, pour le coup, provoque de la phobie. Et il la provoque auprès d'un nombre très important de la population des États-Unis. Je ne suis pas sûr que ça puisse se corriger, revient en arrière, mais vous avez raison. On a là quelque chose qui est une forme de moteur qui est extrêmement puissant au moment où aujourd'hui les gens doivent voter. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites à travers votre commentaire, je pense, c'est aussi que aujourd'hui, l'on ne vote plus exactement pour les mêmes raisons qu'autrefois. Vous savez, moi, je suis toujours extrêmement frappé par une chose très simple, la manière dont les Français, les Européens, en général, considèrent que la démocratie fonctionne. Le critère qui est le plus structurant de la perception du bon ou du mauvais fonctionnement de la démocratie, c'est le fait que l'économie aille bien ou mal. Aujourd'hui, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'est la poule ou l'œuf, mais aujourd'hui, on a une vision de la démocratie et peut-être du vote qui est devenue, c'est vrai, très utilitariste.
Alors Henri Guénaud, supposons, admettez au moins la supposition qu'en 2021, on ait un chômage descendu à 8-7%, on ait une croissance montée à 2-2,5%. Alors, à ce moment-là,
vous voyez bien qu'entre 3,5% de chômage et 8%, il y a une sacrée différence.
Toutes choses égales par ailleurs.
C'est très important.
C'est l'hypothèse.
C'est
ce qui
très
compte,
important.
C'est la baisse. Non, Henri Guénaud,
non, vous savez ce que ça veut dire? Non, vous savez ce que ça veut dire? 3,5% de chômage, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de chômage, c'est le chômage frictionnel, que par conséquent, il y a plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi, et que donc les salaires, effectivement, montent, il y a des tensions sur le marché du travail. On est dans une situation radicalement différente.
D'accord, mais si on a baissé de 3 points, écoutez, si on a baissé de 3-4
points. Vous verrez, je pense que ça ne.
Je vous pose.
Voilà.
Admettez mon hypothèse. Voilà. Et vous pouvez dire, ça suffira pas.
Non, ça ne suffira pas. Ça n'arrivera pas de façon suffisamment significative pour que ça ait un impact. Vous savez, restons sur les États-Unis un instant.
Je vous en prie, on va y revenir d'ailleurs.
Voilà. D'abord, l'histoire de l'économie et du vote, je suis d'accord. On vote d'abord pour ce qui ne va pas, ou ce que l'on sent qui ne va pas et qui demande à être corrigé. Si vous êtes dans une tyrannie, c'est pour la liberté. Si vous êtes dans une situation, dans des sociétés dans lesquelles, au fond, l'économie et la société sont malades, comme les sociétés occidentales, quelles que soient les apparences macroéconomiques, regardez l'Allemagne, magnifique, mais c'est pas pour ça que, sur les grands indicateurs macroéconomiques, c'est pas pour ça que Mme Merkel recueille l'assentiment et on voit poindre l'extrême droite. Aux États-Unis, ça va tellement bien que la société, que Trump est au niveau de a été élu d'abord et se trouve quand même au niveau de popularité où il demeure. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que il y a une déconnexion entre le malaise de la société et les grands indicateurs macroéconomiques. Même si évidemment, lorsque le chômage explose, ça rajoute encore à la misère, surtout aux États-Unis où vous vous retrouvez du jour au lendemain sans maison, sans logement, sans rien. Donc, par rapport à la crise qui a ravagé la société américaine, c'est sûr que les gens respirent un peu. Ça ne veut pas dire pour autant que la phobie anti-Trump va pas demeurer chez ceux qui sont aujourd'hui phobiques, et chez les autres, que les motivations pour lesquelles ils ont choisi Trump et pour lesquelles ils continuent à le soutenir ne vont pas demeurer.
La société américaine est
aujourd'hui presque une expérience de laboratoire. De ce qu'est des malaises des sociétés occidentales.
Réponse très bientôt avec les midterm elections. Réponse très bientôt. Et autant je voyais clair sur l'élection de Trump, autant je vois pas clair sur ce qui va se passer en novembre aux États-Unis.
Ça
dépend de qui va venir voter. Oui. Mais très franchement, s'il gagne les midterm elections avec toutes les pitreries qu'il a fait, avec tout ce qui a été révélé lui portant tort, avec un juge à la Cour suprême qui va être nommé alors qu'il est quasiment avéré, en tout cas plausible et probable qu'il ait fait des tentatives de viol, etc. La preuve que it's the economic first, stupid. C'est pas à vous que je parle, c'est Clinton qui se parlait à lui-même.
Je m'en souviens très bien, mais c'est pas ça. C'est que l'économie dans l'électorat Trump, c'est pas simplement le chômage, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire ce rapport de force avec le reste du monde, cette guerre commerciale, cette volonté qu'il montre de défendre l'Amérique profonde qui se sent attaquée, fragilisée, etc. C'est, si l'économie intervient,
en fait,
c'est à travers ça.
Alors, Trump. Allez, on y revient juste après.
Vous n'êtes pas gentil avec moi ce matin.
Pourquoi? Non, c'est pas méchant. Du Guénaud, c'est un compliment que je fais à Trump. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Ouais.
Ce 6 octobre dans Mediapolis, vous recevez Olivier Duhamel, Édouard Le Serre, directeur général de l'Institut BVA, et Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.
Allez, encore un petit tour du côté des États-Unis et de Trump avant de revenir en France. Alice Baudry, directrice des affaires internationales de l'Institut Montaigne, signale un sondage mondial sur Trump. C'est-à-dire le Pew Research Center a commandité une série de sondages sur l'image de Trump à l'international réalisés dans 25 pays différents. Résultat, la cote de popularité de Trump reste mauvaise à l'international et va jusqu'à détériorer l'efficacité du soft power américain jusqu'ici infaillible. 81% des Français pensent que les États-Unis ne tiennent pas compte des intérêts des autres pays. 82% des Canadiens. L'étendard de la liberté individuelle qui a toujours été érigé haut et fort dans le pays fait moins consensus. La frustration contre le leadership du président américain est spécialement forte chez ses alliés historiques. Il n'y a que 10% des Allemands qui accordent leur confiance à Trump. 9% des Français. 6% des Mexicains. Ces résultats sont pires que ceux obtenus évidemment par Macron et Merkel, mais même que ceux obtenus par Poutine ou Jinping. Donc l'image internationale de Trump est absolument désastreuse, mais jusqu'à présent, pas celle des États-Unis. C'est l'intérêt de ce sondage. Henri Guénaud.
Oui, mais c'est normal. Trump assume une nouvelle position des États-Unis, mais qui était en train de cheminer souterrainement. C'est que l'Amérique fait la politique de l'Amérique. Elle se moque de ses alliés. D'ailleurs, elle ne veut plus d'alliés. Elle veut pas négocier avec ses alliés. Elle ne veut avoir que des vassaux. Hein, et elle leur demande, au camp occidental de s'aligner sur ses positions. Point à la ligne. Elle ne négocie plus rien. Voilà. Et ça plaît une partie, c'est ce que réclame d'ailleurs une partie de l'Amérique profonde.
Et on le serve très vite parce que je suis en retard en fait.
Une autre information très intéressante dans ce sondage du Pew Research Center, c'est qu'il y a un seul pays parmi tous ceux dans lesquels le sondage a été réalisé, dans lequel l'image de Donald Trump s'améliore, c'est Israël, où elle passe de 56 à 69%, effectivement.
C'est le seul pays qu'elle ménage.
C'était intéressant de noter. Et que l'image de Macron est finalement pas si mal à l'international aussi, puisqu'on
a dit. Vous avez dit que le CERF était le plus grand spécialiste. Il va même regarder les sondages américains. Allez, revenons en France un instant. Du coup, avec tout ce qui se passe, franchement, entre Gérard Collomb et Charles Aznavour, la 5e République n'a pas de chance parce que son 60e anniversaire est passé légèrement inaperçu. Et pourtant. Le président de la République, lui, a essayé de le mettre en valeur pour qu'on parle d'autre chose. Écoutez ce qu'il a dit à Colombelles et deux églises.
La force de cette Constitution, c'est qu'elle permet d'avancer pour qu'ils décident d'expliquer aux Français quand ils l'ont choisi. Et elle permet d'éviter la tyrannie de l'immédiateté, qui est une absurdité contemporaine. C'est-à-dire que ce ne sont pas les péripéties du quotidien qui doivent décider pour une nation. Il faut regarder à hauteur d'homme, et avec notre histoire et notre destin en perspective. Si on regarde tous les jours les péripéties du quotidien, avec tout ce qui se passe, les sondages, les ceci, les cela, on n'avance plus, on ne fait plus rien. Cette Constitution offre cela.
Bon, c'est dur d'être président, parce que franchement, de temps en temps, il y a des phrases... La force de cette Constitution, c'est qu'elle permet d'avancer pour qu'il décide à expliquer aux Français. Alors là... Celui qui arrive à décoder, moi quand on m'a sorti ce son, j'ai dit à Paul Lassène quand même, tu pourrais faire tes transcriptions un peu mieux. Alors il est allé réécouter, il m'a dit mais je suis désolé, il l'a dit. Bon, au-delà de ça,
il dit du mal des sondages, mais ça c'est normal, ça fait partie de l'exercice. Au-delà de ça, vous remarquez, et c'est très intéressant, et je pense que Paul Lassène a aussi été chargé de cet extrait pour cela, son sur le salon de l'auto. Macron parle de péripéties, sont sur la 5e République, ou en tout cas, il reparle de péripéties. Ça veut dire que lorsqu'on l'interroge sur ce qui est en train de se passer sur la 5e République, il reparle de Colomb.
Oui, absolument, absolument.
L'inconscient, voyez, on retourne à la psychologie.
Je pense que c'est calculé, et le peut-être petit bafouillage d'avant de début, c'était pour dire quand est-ce que j'ai placé le mot péripéties.
Mais ils ont de la chance, tous ces présidents, d'avoir la 5e République quand même, parce que c'est le plus beau bouclier qui soit.
Nous aussi, nous avons de la chance d'avoir la 5e République. Regardez l'état des démocraties occidentales, toutes, hein, qui sont devenues quasi ingouvernables. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'on est bien gouverné. C'est pas le sujet. Mais les institutions sont plutôt bonnes. Ce qui est dommage, c'est qu'on les a beaucoup abîmées.
On les a beaucoup abîmés parce que il y avait.
Attendez. On les a beaucoup abîmés. C'est un point important. C'est un point
oui,
important.
Je vais y venir.
Non, mais vous allez y venir. Vous allez avoir le temps. D'ailleurs, je vais
une
vous
seconde,
dire.
C'était pour.
Mais non. Vous inquiétez pas. De surcroît, j'ai mis la 5e République et parce que c'était le 60e anniversaire et parce que je sais qu'il y aurait des petits moments où on se fricoterait un peu dans l'émission et que ça vous ferait plaisir qu'on parle de la 5e République. Mais on va y venir juste après un dernier moment de brève interruption.
La suite de Mediapolis, c'est avec vous, Olivier Duhamel, et vos invités, Édouard Le Serre, directeur général de l'Institut BVA, et Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.
Alors, dans les très peu de minutes qui nous restent, j'aimerais connaître l'analyse, l'opinion de nos invités, justement, sur ceux qui soutiennent que le clivage dominant politique n'est plus le clivage droite-gauche, mais quelle que soit la manière de le dire. Alors, si c'est Macron et les macronistes, ils diront progressistes versus nationalistes ou populistes. Si c'est des spécialistes de sciences politiques, ils diront ouverts versus fermés. Il y a différentes manières de nommer la même chose. Henri Guénaud, vous pensez que le clivage droite-gauche est prédominant, les deux clivages sont équivalents, le nouveau clivage est plus important?
Non, je crois que les sociétés occidentales se radicalisent, voilà, et dans cette radicalisation, on ne peut pas répondre par la droite et la gauche. Voilà, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des gens de droite et de gauche, des idées de droite et de gauche, mais ça n'est pas le sujet. Pour le reste, c'est toujours une représentation de la vie politique, le clivage. Hein, c'est quelque chose qu'on invente pour ordonner sa vision du monde. Bien, je trouve que celle qui consiste à cette, la vision du monde qui consiste à opposer aujourd'hui les nationaux, populaux, fascistes d'un côté avec les raisonnables européistes, mondialistes, etc. de l'autre est une folie de la part et notamment de la part du pouvoir. Voilà, je pense que elle aura des conséquences extraordinairement délétères parce que elle vous oblige à choisir entre deux camps. Je ne suis pas sûr que ça soit le camp des soi-disant raisonnables, etc. qui va gagner dans une telle confrontation. C'est absurde, la solution ne peut être que entre les deux, c'est-à-dire des gens qui ont encore le souci de la nation et qui en même temps veulent pas se fermer au monde, des gens qui ont le souci de la fermeté et de l'autorité, mais qui en même temps ne veulent pas l'autoritarisme ou la dictature. Et si vous réduisez si vous anéantissez ce qu'il y a entre les deux, vous allez à la catastrophe. Voilà, je pense qu'on est sur une très mauvaise pente.
En trois minutes.
D'où Jésus.
Le clivage gauche-droite est quelque chose que les Français considèrent comme étant obsolète et dans lequel ils se retrouvent. Et quelque chose qu'ils disent rejeter et ne veulent plus être le système d'organisation.
Et vous? Sur l'ancien clivage, le nouveau clivage,
moi, je pense
superposition.
Un des clivages aujourd'hui, je vais parler de la France. Un des clivages importants, c'est celui entre ceux qui peuvent attendre et ceux qui ne peuvent pas attendre. Les résultats. Et ça dit des choses sur les résultats qui est devenu un élément très important. Et je crois assez aussi dans le positionnement de chacun, est-ce que je suis au centre ou est-ce que je suis en périphérie? Est-ce que j'ai le sentiment d'être au centre ou est-ce que j'ai le sentiment d'être à la marge? Est-ce que j'ai le sentiment de faire partie du mouvement ou d'en être délaissé? Et lorsque ceux qui se retrouvent délaissés et à la marge considèrent que tiens, on est peut-être plus nombreux que ceux qui sont au centre, c'est là où les déséquilibres se provoquent assez souvent.
Oui, donc ça ne recoupe pas strictement le clivage droite-gauche. Ça.
Non, mais il est encore opérant lorsqu'on a les résultats. La 5e République...
À la belle époque des définitions de droite et gauche, ça devait les recouvrir. Parce que ceux qui étaient pas parmi les gagnants, ceux qui avaient l'impression d'être délaissés pour compte, c'était les catégories populaires qui votaient largement à gauche. Donc ça, c'est au moins... Autrefois, les deux clivages, s'ils existaient, se superposaient et maintenant ils se croisent.
On parlait tout à l'heure des idées. Je pense que les idées permettaient de se projeter dans quelque chose d'un peu plus lointain. D'accord. Aujourd'hui, on est un peu dans l'immédiateté et ça, effectivement, réduit les chances.
Il nous faut des idées. Ce sera la phrase de conclusion. Il nous faut des idées, mais il faut aussi savoir, disait Charles Aznavour. Et donc, il a composé une chanson sans imaginer un seul instant qu'elle servirait à Gérard Collomb. Et étant donné que c'est la semaine Collomb-Aznavour, c'est la chanson que nous avons choisie. Il faut savoir.
Gardez la face. Mais moi, je ne sais pas.
Merci Charles Aznavour. Et si vous ne savez pas comment faire écouter en podcast, c'est très facile. N'importe quel truc pour se connecter sur le web, Mediapolis Europe 1, podcast, et ça vient tout seul. Et c'est génial les podcasts.
Dites ça à vos amis pour écouter l'émission. Nous, on se retrouve samedi prochain. Au revoir à tous.
Merci Olivier Duhamel. C'était Mediapolis avec Édouard Lecerf, directeur général de l'Institut BVA, et Henri Guénaud, ancien conseiller Nicolas Sarkozy. En attendant la semaine prochaine, la journée continue bien sûr sur Europe 1 avec Laurent Mariotte qui va vous donner fin à 11h pile avec sa table des bons vivants. Bonjour Laurent.
Bonjour Justine, ce samedi au menu des bons vivants, un légume oublié qui nous veut du bien, c'est le cresson. Le chef Yves Candebord rejoint ce samedi la bande des bons vivants, nous parlerons entre autres de la semaine du goût. Et puis le comédien Jonathan Lambert viendra casser la croûte avec nous. A tout de suite Justine.
A tout de suite Laurent, et dans moins de deux minutes, les infos de ce 6 octobre avec Émilie Bonneau.